Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe?
C'est l'oreille dans le coin.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile.
Bonjour, c'est Yann. C'est tenu le vendredi 2 et le samedi 3 novembre aux salles Saint-Nicolas à Compiègne, un colloque ayant pour thématique 1918, finir la guerre dans l'Oise. Organisé par le collectif des sociétés historiques de l'Oise, qui propose aux historiens professionnels et amateurs de venir partager le fruit de leurs recherches historiques portant sur la période 1917-1919, avec, pour dénominateur commun, le département de l'Oise.
Adieu la vie. Adieu l'amour.
Éric Blanche-Gorge, président de la Société historique de Compiègne.
Est-ce que vous pourriez présenter aux auditeurs la Société historique de Compiègne, s'il vous plaît?
Eh bien, c'est l'une de ces sociétés savantes qui se partagent le département. La Société historique de Compiègne, comme plusieurs autres, est née au XIXe siècle, précisément en 1868, sous le Second Empire, et poursuit depuis lors une activité de recherche sur l'histoire de Compiègne et de ce que l'on appelle aujourd'hui le Compiénois, les environs de Compiègne, auparavant. Elle a pour but principalement de développer les études historiques sur Compiègne, de faire connaître l'histoire de Compiègne, et pour ce faire, elle dispose de 2 sites internet, ainsi que de nombreuses publications, comme ses consoeurs de l'Oise, et enfin de défendre, autant qu'elle le peut, le patrimoine, bien évidemment, de Compiègne et de sa région.
Un petit mot, monsieur, sur ce colloque qui a duré 2 jours.
Ce colloque est le fruit d'un travail de longue haleine. En fait, c'est le 3e colloque que nous organisons tout ensemble, les sociétés historiques du département de l'Oise, sur le thème du centenaire de la Grande Guerre dans notre département. Il y en a eu un premier en 2014 à Senlis, un deuxième en 2016 à Clermont, et celui de Compiègne est donc le 3e, et clôt le cycle en achevant évidemment sur ce moment particulier qu'est l'armistice pour l'achèvement, en tout cas des combats de la Grande Guerre dans notre département de l'Oise.
Alors justement, l'Oise, pendant la Grande Guerre, a été vraiment beaucoup touchée au point de vue des civils, des bombardements.
C'est un département qui effectivement a connu l'invasion allemande, qui a connu pour une 60aine de ses communes au nord-est du département l'occupation allemande de 1914 jusqu'en mars 1917, et puis de nouveau en 1918 a connu la dernière tentative des armées allemandes de percer le front pour gagner Paris. Donc c'est un territoire qui a été véritablement balayé par la Grande Guerre et à toutes les périodes de celle-ci.
Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous rappeler les différentes batailles qui ont eu lieu sur notre territoire?
Eh bien, entre le mois de mars et les débuts de l'été 1918, les armées impériales allemandes tentent de nouveau de percer le front, renforcées par les troupes revenues du front russe, après la paix de Brest-Litovsk, et qui a fait cesser les combats contre la Russie désormais bolchévique, si bien que, en particulier autour de Noyon, qui est certainement, avec la bataille du Mont Renaud, l'épisode le plus célèbre, mais pas le seul, qui ait eu lieu sur le territoire de l'Oise, une très forte poussée allemande qui menace quasi jusqu'à Compiègne, qui réinvestit Noyon, qui envahit de nouveau une partie du territoire du département, avant d'être péniblement, mais sûrement, repoussée par les armées alliées, anglaises et françaises, renforcées par les armées américaines, et qui finissent par chasser en juin-juillet 1918 les armées allemandes du territoire de l'Oise, les repoussant de plus en plus vers l'est et entraînant évidemment la reddition allemande caractérisée par l'armistice signé à Compiègne le 11 novembre. La bataille la plus célèbre reste aux yeux du grand public et de nombreux historiens, la reconquête de Noyon autour de la bataille du Mont Renaud qui surplombe la ville, qui est véritablement un enjeu stratégique sur la route de Paris. Le but des armées alliées étant naturellement d'interdire l'avance allemande vers la capitale française.
8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve.
Durant ces 2 jours, il y a eu des thématiques lors des conférences et lors des discussions. La première, c'était le retour des combats dans l'Oise.
C'est exact, c'est-à-dire les batailles sur lesquelles vous venez de m'interroger, en effet.
Il y en avait une autre aussi qui avait pour thématique souffrance et espérance.
C'est exact, nous sommes aussi intéressés à la vie de l'arrière et à l'opinion publique, à savoir comment les populations pouvaient ressentir ces épisodes dont elles étaient malaisément informées, la presse étant très orientée à cette époque et la censure très importante. Donc voilà comment les populations civiles qui ont été contraintes pour une grande part des collectivités de notre département à une évacuation de force devant l'avance allemande au travers des batailles qui ont ravagé le territoire de l'Oise. C'est tous ces éléments que nous avons souhaité prendre en compte, et pas seulement, évidemment, les événements militaires exclusivement, mais au contraire, les événements civils et sociaux aussi.
Évidemment, l'armistice de Compiègne a été évoqué.
Une demi-journée a été consacrée aux circonstances de cet armistice et aux impacts à la fois très concrets, très immédiats sur les combattants, mais également sur la géopolitique mondiale, puisque c'est un événement qui cristallise la sortie de la guerre, la future paix et les différents traités de Versailles, Sèvres, Saint-Germain, etc. Raison pour laquelle aussi le colloque s'est transporté au mémorial de l'armistice vendredi soir pour en visiter les nouveaux espaces récemment inaugurés par la ville de Compiègne et l'association porteuse du fonctionnement du mémorial qui nous y a reçus très aimablement et qui nous a fait découvrir ces nouvelles salles et qui permettent finalement de donner une vision qui nous a paru historiquement très équilibrée sur la Première Guerre mondiale, bien entendu, mais aussi sur ses conséquences et sur l'armistice de 1940 qu'Hitler a voulu, par vengeance, signer au même lieu.
C'était par vengeance.
Disons que c'était un outil de communication pour les forces nazies que de revenir signer le nouvel armistice en leur faveur au lieu où avait été signé celui en défaveur du Premier Reich.
Une autre thématique également, celle qui s'appelait « Panser les plaies », « Panser », P-A-N-S-E-R, bien sûr.
En effet, comment, dans l'après-guerre, l'on gère, finalement, les conséquences de cette guerre, de cet armistice, au travers notamment des ruines si abondamment présentes dans notre département ravagé par des années et des années de combats et de bombardements, car même les villes de l'arrière du front se trouvaient, tel Beauvais, bombardées régulièrement par les forces allemandes. Gérer ces ruines, gérer l'entretien du souvenir de l'héroïsme des différentes armées alliées, des exactions perpétrées par les forces occupantes, tout cela méritait une attention tout aussi soutenue que les événements même de la guerre.
Je suppose que les débats, les discussions ont été riches pendant ces 2 jours. Les sociétaires ont apprécié et vous-même.
Nous sommes en effet très contents de l'excellente ambiance qui a régné pendant ces 2 jours, de la bonne concorde, de l'union sacrée, si j'ose dire, qui a régné entre nos différentes sociétés, dont les membres sont venus tenir les différentes interventions de ces 2 jours, et qui vont d'ailleurs tout ensemble publier les actes assez rapidement. Je pense que dès l'année prochaine, ils seront à disposition du public pour restituer de façon plus large encore les entretiens de ces 2 jours de novembre à Compiègne.
Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs toutes les sociétés historiques qui étaient présentes durant ces 2 jours, monsieur ?
Les 2 sociétés de Compiègne, la Société historique et la Société d'histoire moderne, ont été ravies de co-organiser avec leurs collègues ce colloque à Compiègne, la ville de l'armistice, à savoir l'Association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, la Société archéologique et historique de Clermont, la Société historique, archéologique et scientifique de Noyon, la Société d'histoire et d'archéologie de Senlis, la Société d'histoire et d'archéologie du Valois, ainsi que nos amis des archives départementales de l'Oise, le département d'histoire locale du Centre culturel Marguerite de Breville de Chantilly, l'atelier Canopée 60 de Beauvais, hein, pour le monde enseignant, ainsi que l'ONACT, évidemment, de l'Oise.
Et on rappelle que ces personnes ont fait ça de façon bénévole, bien sûr.
Ah, naturellement, hein, nos sociétés sont des associations de personnes bénévoles. Personne n'est rémunéré ni en leur sein, ni à l'occasion de ces manifestations. Et ce sont des bénévoles qui, aux côtés des personnels de la ville de Compiègne, ont organisé l'ensemble de ces deux jours et naturellement toute la communication et la préparation qu'implique un colloque de cette importance pour nos sociétés. C'est la raison pour laquelle s'unir pour réaliser de tels événements est une heureuse nécessité pour elles.
Aucune concurrence entre vous, mais plutôt une union, c'est ça?
Ah, mais il faut de l'émulation. Chacun peut faire, je pense, dans le territoire qui est le sien, ce qui lui paraît utile au progrès des sciences historiques. Ça n'empêche absolument pas de s'unir régulièrement pour donner plus d'audience aux travaux historiques de cet ordre et au niveau départemental. C'est le bon niveau, nous semble-t-il, pour évoquer ainsi le passé de notre département.
Merci à vous, monsieur.
Je vous en prie, monsieur. C'est moi.
Je suis avec Calix Madège.
Oui, alors donc je suis en prépa lettres, en CAGNE spécialité histoire-géographie à Amiens. Donc moi, je suis habitant de Noyon.
Alors vous avez eu une discussion cet après-midi qui avait pour thème la bataille du chemin creux à Crisolles et sa résonance mémorielle.
Oui, donc en fait c'était un travail qui voulait présenter un épisode très particulier de la Première Guerre mondiale, donc qui avait pour but d'essayer de voir la résonance mémorielle et le parcours mémoriel de cette bataille dans l'histoire à travers le temps et les différentes visions qu'on a eues de cette bataille.
Est-ce que vous pouvez resituer Crisolles aux auditeurs s'il vous plaît?
Alors Crisolles, c'est une commune située au nord de Noyon, dans la direction de Ham-Saint-Quentin, donc quelques kilomètres au nord de Noyon.
Et quelles ont été vos sources pour écrire cette discussion?
C'est tout d'abord les ressources historiographiques qui ont été éditées par différentes personnes qui se sont préoccupées de cette bataille. Ce sont aussi des membres qu'on a retrouvés d'ailleurs dans le colloque ce week-end, notamment Jean-Yves Bonnard qui a écrit des livres qui m'ont aidé, puis sur ensuite les différentes sources auprès des locaux, des habitants qui avaient des photographies, qui avaient des choses qui pouvaient m'aider à illustrer cet événement.
Vous avez assisté cet après-midi à de nombreuses discussions, à de nombreux exposés. Y en a-t-il en particulier que vous avez apprécié?
C'est vrai que peindre les ruines sur Noyon, de fait, étant à proximité, c'est vrai que ça a eu une résonance particulière. Et puis ça permet de voir un peu aussi une réflexion sur l'art et ce qu'on appelle les représentations de ce qu'on peut faire d'un tel événement, et ce qui permet de réfléchir aussi maintenant sur quelles représentations on peut avoir d'un même événement. C'est ce qui m'a intéressé dans cette discussion.
Je suis avec
Catherine Platel.
Donc vous avez assisté ce samedi au colloque.
Bon, forcément, moi je suis originaire de Noyon, donc ce qui concernait la région Noyon, bon, surtout là cet après-midi où c'était plus notre secteur. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est la tendance de l'époque, les réflexions d'époque et après sur l'après-guerre, la reconstruction. Ça sera le thème, je pense, d'un prochain colloque, mais la guerre, c'est pas que la bataille, il y a tous les événements à côté, quoi, au niveau civil, au niveau militaire. Et on ne pense pas à certaines choses, la vision de l'époque, ce que les gens ressentaient. Enfin, moi, je suis très sensible à ça. Donc.
On l'a vu à travers des peintres, d'ailleurs. Vous pouvez citer justement les peintres qui sont exposés.
Mais c'est surtout Fernand Comble, mais on a Monsieur Batté, on a un petit peu de Paul Lotté. Mais là, vraiment, le thème, c'est Fernand Combes, et il y a un petit peu de Bouchard aussi.
Il a peint Noyon après la guerre, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Là, de toute façon, c'était une demande faite par l'État de peindre les ruines. Et ce que j'ai bien aimé, surtout l'explication, c'est là, c'est la peinture des ruines, mais en comparaison par rapport aux peintures, quand on parle de Diderot et qui évoque l'Antiquité ou des choses comme ça, là, ils ont vraiment le thème, les ruines devant eux à ce moment-là.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc, en ce samedi 3 novembre, aux Salles Saint-Nicolas à Compiègne pour assister au colloque ayant pour thématique 1918, finir la guerre dans l'Oise. Colloque organisé par le collectif des sociétés historiques de l'Oise.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.